VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 9 juin 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous, à la une de nos informations. L'armée de la RDC accuse le Rwanda d'avoir envoyé 500 soldats au Nord Kivu. Kigali rejette l'accusation qualifiée de sans fondement. Dans le nord-est du Nigeria, au moins 23 ferrailleurs ont été tués par des membres présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, un soldat et un civil ont été tués ce matin dans l'attaque d'une mine d'or dans le nord du pays. Les États-Unis disent prendre acte de la transition de 24 mois au Mali et exhortent Bamako à adopter au plus vite une loi électorale. Ici à Washington, une commission parlementaire présente ce soir ses premières conclusions sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. L'armée congolaise accuse le Rwanda d'avoir déployé 500 soldats dans l'est de la RDC pour soutenir les rebelles du M23. De nouvelles accusations qualifiées de sans fondement par Kigali. Le point avec Rosine Monezero.
Le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, a affirmé hier soir que le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires de ses forces spéciales. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a déclaré que le Rwanda n'a aucun intérêt dans une crise et qu'ils ne vont pas répondre à des accusations sans fondement. Dimanche, le président congolais Félix Tshisekedi a dit n'avoir aucun doute sur le soutien rwandais à une rébellion venue agresser son pays. Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette ancienne rébellion réapparue en fin d'année dernière dans la province du Nord Kivu. En début de semaine, des affrontements ont de nouveau opposé l'armée congolaise au M23 dans le territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Ces nouveaux échanges interviennent après environ 2 semaines de tensions entre la RDC et le Rwanda.
Par ailleurs, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, 5 Chinois travaillant dans une mine d'or du sud Kivu qui avait été kidnappée fin novembre ont été libérés lundi. Les 5 hommes travaillant pour la compagnie Beyond Mining qui exploite une mine d'or en partenariat avec une coopérative locale avaient été enlevés par des hommes armés à Mukera dans le territoire de Fizi au mois de novembre. Des hommes armés ont incendié la nuit dernière un hôpital dans l'ouest du Cameroun, en proie à de fréquents affrontements entre l'armée et des séparatistes anglophones, sans faire de victimes. L'hôpital de Manfé, dans la région du sud-ouest, a été incendié par de présumés séparatistes armés, selon la CRTV, la radio-télévision d'État. Au Nigeria, selon des milices locales, au moins 23 personnes d'une communauté de ferrailleurs ont été exécutées par des djihadistes présumés mardi dans le nord-est du pays. Les détails avec Nani Talani.
Des militants soupçonnés d'appartenir au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont enlevé des membres d'un groupe d'une cinquantaine de ferrailleurs qui s'étaient rendus dans le village de Magdala, dans le district de Dikwa, dans l'est de l'État de Borno, près de la frontière tchadienne. Pour le moment, 23 corps ont été retrouvés, tous massacrés. 3 personnes ont réussi à revenir à Dikwa, mais on ignore tout du sort de la vingtaine d'autres ferrailleurs, précise Babakoura Kolo, le chef d'une milice d'autodéfense locale. Les recherches se poursuivent. Ces ferrailleurs, qui se déplacent beaucoup à la recherche de métaux de récupération, sont fréquemment accusés par les djihadistes de renseigner les autorités sur les mouvements des militants dans la région. Fin avril, une trentaine de ferrailleurs ont été tués dans le village de Moudou, dans le même district, par des militants présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, en sigle ISWAP. L'armée nigériane, selon son état-major, a intensifié ses opérations terrestres et aériennes contre l'ISWAP et Boko Haram.
Nigeria, toujours le bilan de l'attaque de l'église catholique de Wo revue à la hausse. 40 personnes ont été tuées, dont des enfants, selon les autorités locales qui disent que 61 blessés sont toujours soignés dans différents hôpitaux. Un précédent bilan communiqué mardi par les autorités faisait état de 22 morts et de 58 blessés. Les États-Unis ont dit aujourd'hui prendre acte de l'annonce par le gouvernement de transition du Mali d'un calendrier de transition de 24 mois débutant en mars 2022. Selon un communiqué du département d'État, les États-Unis exhortent le gouvernement de transition malien à prendre des mesures durables et tangibles en vue de la tenue d'élections, y compris des critères détaillés et l'adoption rapide de la loi électorale. Washington encourage aussi le Mali et la CEDEAO à se mettre d'accord, en particulier sur un mécanisme de suivi solide avec des critères tangibles pour le reste de la transition. Au Burkina Faso voisin, un soldat burkinabé et un civil ont été tués dans une attaque contre une mine près de Ouyegouya, dans le nord. Le point avec Claire Morejibou.
Tôt ce matin, plusieurs dizaines d'individus armés ont attaqué la base sécuritaire de la mine d'or de Karma, près de Waïgouya, selon une source sécuritaire qui a indiqué que cette attaque avait été repoussée par des éléments de sécurité. Le bilan provisoire fait état d'un soldat et d'un civil tué, 5 personnes blessées, dont 2 grièvement, et qui ont été évacuées vers l'hôpital de Waïgouya. Lundi, une autre mine d'or à Bongou dans l'Est a été visée par des tirs d'obus. La veille, un soldat avait été blessé.
Une trentaine de personnes ont été interpellées en Côte d'Ivoire depuis la saisie à la mi-avril de plus de 2 tonnes de cocaïne dans les villes portuaires d'Abidjan et de San Pedro, a indiqué ce jeudi le procureur de la République, Richard Adou. La provenance et la destination de la marchandise n'a pas été précisée, mais la Côte d'Ivoire est devenue ces dernières années l'un des pays privilégiés pour le transit de la cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Le nouveau président de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamud, a été investi en tant que 10e président de la Somalie lors d'une cérémonie haute en couleur à laquelle ont assisté plus de 1000 personnes, dont 2 présidents de pays voisins, 2 premiers ministres et une bonne centaine de diplomates. Mohamud, 66 ans, qui a été élu le 15 mai, a promis de restaurer la dignité de la Somalie, d'établir de meilleures relations avec le monde et d'apporter la paix et la réconciliation à la Somalie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, après quasiment un an d'enquête, une commission parlementaire présente ce jeudi ses premières conclusions sur l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. Les précisions avec Mohamedou Mfa.
Lors d'une audience prévue à 20h heure locale et minuit GMT le vendredi, la commission dite du 6 janvier va révéler comment le chaos a été le fruit d'une campagne coordonnée pour inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 et empêcher le transfert du pouvoir de Donald Trump à Joe Biden, a annoncé une source parlementaire. SMS, documents officiels et vidéos à l'appui, une série d'avocats et de témoins vont présenter les différents scénarios qui serait envisagé par l'ex-président. Depuis près d'un an, cette commission de 9 membres, dont 7 démocrates et 2 républicains, a entendu plus de 1000 témoins, dont 2 enfants de Donald Trump, et épluché 140 000 documents. Signe de l'importance que la commission veut donner à ses conclusions, la première audience est organisée à une heure de grande écoute. Elle sera retransmise en continu sur de nombreuses chaînes d'information. La majorité des républicains dénonce les travaux de cette commission, et le principal intéressé, l'ancien président Donald Trump, fustige une chasse aux sorcières.
La mission diplomatique américaine auprès des Palestiniens à Jérusalem a annoncé aujourd'hui qu'elle avait changé de nom, signe d'une montée en grade avant un déplacement du président Joe Biden dans la région. L'ancienne unité des affaires palestiniennes au sein de l'ambassade des États-Unis a été renommée Bureau américain des affaires palestiniennes à Jérusalem. Un porte-parole de la mission a indiqué que le nouveau Bureau des affaires palestiniennes continuerait d'opérer sous l'autorité de l'ambassade, mais précisé qu'il rendrait compte directement au Bureau des affaires proches orientales du département d'État sur les sujets d'importance. Les États-Unis ont prévenu aujourd'hui que les dernières provocations de Téhéran dans le dossier atomique risquent d'aboutir, je cite, à une crise nucléaire aggravée et à un isolement économique et politique accru de l'Iran. Nous continuerons d'exhorter l'Iran à choisir plutôt la voie de la diplomatie et de la désescalade, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dans un communiqué. Il réagissait à la décision de l'Iran de retirer 27 caméras de surveillance de ses sites nucléaires. Un mois et demi après avoir réélu Emmanuel Macron, les Français retournent aux urnes dimanche pour élire leurs députés. Les Français doivent renouveler la totalité de l'Assemblée nationale, soit 577 députés lors de ce scrutin majoritaire à deux tours, les 12 et 19 juin. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Rosine Monizero.
Le président du Sénégal, Macky Sall, a dénoncé jeudi au cours d'une conférence de l'OCDE à Paris que la mondialisation qui était perçue comme une ère d'échange et de complémentarité et une prospérité partagée a plutôt accentué les inégalités. Monsieur Sall a par ailleurs reproché une inégalité de traitement des pays africains dans la manière dont ils sont évalués par les agences de notation financière. La compagnie aérienne Comair, franchise de British Airways en Afrique du Sud, a annoncé jeudi faire l'objet d'une procédure de liquidation après l'échec d'un plan de sauvetage. Comair avait annoncé l'arrêt de ses vols à compter du 31 mai en attendant de trouver des fonds qui permettraient sa survie. Le financement requis n'a pas pu être réuni, ont indiqué les administrateurs de l'entreprise. Les crises alimentaires se sont aggravées sous l'effet de la guerre en Ukraine, avec pour conséquence une hausse conséquente de la facture pour les pays importateurs due à la flambée des prix des céréales et des engrais, alerte la FAO. Les dépenses mondiales d'importation alimentaire devraient enregistrer une hausse de 51 milliards de dollars, estime l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les derniers matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 se jouent ce jeudi.
Oui, plusieurs rencontres au programme. Le Cameroun s'est imposé 1-0 devant le Burundi, 3-1 pour le Mali en déplacement face au Soudan du Sud. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, joue le Lesotho, le Maroc reçoit l'Afrique du Sud. La Guinée veut se relancer face au Malawi après sa défaite d'entrée contre l'Égypte, qui cherche une deuxième victoire dans ses éliminatoires face à l'Éthiopie. Le Nigeria accueille la Sierra Leone, la Guinée-Bissau fait face à Sao Tomé et Principe. Hier, après sa défaite inaugurale face au Gabon à Kinshasa, la RD Congo s'est encore inclinée, cette fois-ci 1-2 face au Soudan. Deux défaites en deux matchs également pour le Bénin, battu 1-0 par le Mozambique. De leur côté, les Panthères gabonaises ont été tenues en échec par la Mauritanie 0-0. Le Congo a battu la Gambie 1-0, 2-0 pour l'Algérie face à la Tanzanie, 1-1 entre le Niger et l'Ouganda.
Rabah Madjé condamné à 6 mois de prison ferme.
L'ex-attaquant vedette de l'équipe de football d'Algérie et du FC Porto a été condamné à Alger à 6 mois de prison ferme, a confirmé Rabah Madjé, qui a ajouté qu'il va faire appel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai rien à voir avec cette affaire, ni de près ni de loin. Je suis innocent, a déclaré l'ancien sélectionneur d'Algérie. Rabah Madjé, 63 ans, a été condamné pour de fausses déclarations comptables, de même qu'un co-accusé.
La Première Ligue suspend son nouveau contrat de diffusion en Russie.
La Première Ligue a décidé de suspendre le contrat de diffusion des matchs du championnat d'Angleterre de football en Russie, noué avec la chaîne Match TV. Pour les 6 saisons à venir, elle dit réagir ainsi à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, rapporte l'agence britannique PA. Match TV, propriété du géant de l'énergie Gazprom, a remporté le contrat pour les 6 saisons suivantes de 2022 à 2023. Mais tant que le conflit ukrainien se prolonge, l'organisateur du championnat refuse d'honorer tout contrat avec un quelconque diffuseur russe, précise PA. Match TV devait verser 50 millions d'euros pour l'ensemble des 6 saisons, une goutte d'eau pour les clubs anglais. Pour la seule période 2022-2025, les droits de diffusion à l'étranger rapporteront 5,8 milliards aux clubs anglais.
Les Celtics reprennent l'avantage face aux Warriors dans la finale NBA.
Boston a eu raison de la remontée fantastique de Golden State, initiée par Stephen Curry au troisième quart-temps, s'imposant à domicile 116-100. Les Celtics mènent 2-1 dans cette finale. Le trio Jason Tatum, 26 points, Jaylen Brown, 27 points et Marcus Smart, 24 points, est le premier à réussir au moins 20 points, 5 passes et 5 rebonds dans une finale NBA depuis les Lakers. Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson et Michael Cooper, auteurs de cette performance en 1984 contre les Celtics. Les fans survoltés des Celtics ont pu exulter pour le premier match d'une finale joué au TD Garden en 12 ans et 14 ans après y avoir célébré leur 17e titre Le match numéro 4 est prévu vendredi nuit, toujours au TD Garden de Boston.
Page de sport VO Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, le leader de l'opposition Ousmane Sonko a organisé mercredi à Dakar une grande manifestation pacifique pour annoncer son intention de défier l'invalidation de sa candidature aux législatives du 31 juillet par le Conseil constitutionnel. La Haute Cour a confirmé le rejet de la liste nationale de la coalition de l'opposition. M. Sonko estime que la décision du Conseil est illégale et promet de désobéir. Nani Talani a joint Alassane Samba Diop, directeur de e-radio à Dakar.
Elle a fait une manifestation, l'opposition sénégalaise a fait une manifestation. Une manifestation quand même réussie parce qu'il y avait du monde, elle a mobilisé. Et l'opposition sénégalaise aujourd'hui, c'est une coalition de partis politiques qui sont réunis dans une coalition qui s'appelle Yewi Afrimi. C'est des anciens socialistes et le nouveau chef de l'opposition Ousmane Sonko, avec l'ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique sénégalais, et d'autres petits partis qui se mettent en place une coalition qui s'appelle Yewi Wallou. Ils ont fusionné leur coalition, ils ont fait une manifestation hier qui a mobilisé du monde, où l'opposition se dit qu'elle n'est pas d'accord sur l'invalidation de ces traditions nationales par le Conseil constitutionnel. Elle estime que par A ou par B, elle ira aux élections.
À propos du Conseil constitutionnel, il est accusé une fois de plus de partialité. Que dire de ces accusations?
Oui, vous savez, au Sénégal, on est habitué aux accusations contre le Conseil constitutionnel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis Abdoulaye Wade, opposant pendant pratiquement 26 ans à Abou Diouf, le Conseil constitutionnel a été toujours contesté. Quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, il avait promis de réformer le Conseil constitutionnel. Il n'a rien fait. Parce que justement, le Conseil constitutionnel, sa façon de travailler l'a rangé. Depuis lors, c'est le ping-pong. Le Conseil constitutionnel sénégalais, à chaque fois qu'il rend ses décisions dans un sens ou dans un autre, il est accusé d'être partial. Si l'opposition trouve que des fois, que le Conseil constitutionnel rendait des décisions qui ne l'arrangent pas, elle crie au voleur. Si ça l'arrange, elle se tait, elle applaudit. Et même pour le pouvoir. Donc le Conseil constitutionnel sénégalais, je pense, est habitué à être contesté par les partis selon les intérêts des uns et des autres.
Avec cette situation, peut-on s'attendre à des élections législatives apaisées en juillet au Sénégal?
Mais tel qu'on voit, les choses se mettent en place, le puzzle qui est mis en place, c'est pas que la violence de part et d'autre qui se met en place, le dialogue qui pratiquement qui n'existe plus entre les partis, ben on a tout le droit de croire que les législatives peuvent être troublées. Il faut des législatives avec beaucoup de violence, parce qu'on a vu que ce pays est capable aussi de violence inouïe des fois. Je pense qu'il y a la société civile qui essaye de calmer les partis pour qu'on trouve le juste milieu, pour qu'on aille aux élections dans des circonstances apaisées. Mais déjà, l'opposition a annoncé la couleur en disant que, quelle que soit la situation, si elles ne sont pas validées, il n'y aura pas d'élection. Donc vous voyez ce que ça va donner.
Est-ce que ça, ce n'est pas un bras de fer qui risque vraiment de mettre en danger la vie politique sénégalaise?
Et la vie politique sénégalaise, de mon analyse, elle est en danger depuis longtemps. Parce que la vie politique sénégalaise, qui était une vie politique avant très apaisée, où il y avait un dialogue politique, a été rompue depuis longtemps. Les partis politiques au Sénégal ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. C'est des partis, il n'y a pas de bureau politique, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'accord de parti, il n'y a plus rien. Les gens, ils sont dans les partis politiques aujourd'hui pour des intérêts personnels. Voilà, donc si la politique est devenue un métier dans un pays, voilà le danger, c'est que d'un pays.
Alassane Samba Diop, directeur de e-radio à Dakar au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
À Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, les populations ne se sentent plus en sécurité, même à l'intérieur de leur propre maison. Elles font face à une montée exponentielle d'un nouveau phénomène d'insécurité, avec comme mode opératoire l'attaque à la machette qui a déjà fait plusieurs victimes. Le point avec notre correspondant sur place, Narval Mabila.
À Lubumbashi, plusieurs familles ont déjà été visitées. Des nuits par des hommes non identifiés et armés de machettes. Le plus souvent, ils entrent par effraction à la surprise et à la grande peur des habitants. Armés de leurs machettes, ils viennent se servir dans les maisons et souvent blessent grièvement les résidents. qui tentent de résister. Les témoignages d'un Louchois qui préfère garder l'anonymat pour sa propre sécurité.
La situation sécuritaire actuellement elle est vraiment très compliquée. Hein. Ndiomo a dit qu'il y a un député Pacham Belito qui a été victime. Donc, ils sont entrés chez eux, des gens, une vingtaine de personnes armées des machettes. Ils sont entrés chez lui, donc heureusement que lui là, il s'est un peu caché. Mais ils ont tabassé, ils ont blessé gravement. Donc, au moment que je vous parle, sa femme est gravement malade à l'hôpital, et ainsi que son beau-père. Ils ont pris de l'argent, ils ont pris des biens de valeur. La situation nous inquiète. Donc, demandons à l'autorité, au gouverneur, ainsi que au maire de la ville, d'essayer de trouver des solutions. Sinon, vraiment, cette situation devient de plus en plus inquiétante.
Ces attaques répétées à la machette font peur à tout le monde. Jeff Mbia est membre de la société civile.
Et que le mode opératoire revient à celui que nous avons constaté de 2018-2019, où les gens utilisaient des armes blanches, mais également pour forcer et extorquer. Et on peut aussi justifier cela par le fait que le gouvernement provincial, à travers les mécanismes qui ont été placés, avait réellement permis qu'on puisse mettre fin à certains réseaux de criminels dans lesquels on trouvait les hommes de troupes. Des hommes de tout le sens qui avaient ces groupes-là, c'est un groupe de professionnels qui avaient des armes avec lesquelles ils opéraient. Et aujourd'hui, on a compris qu'ils n'ont plus assez d'armes pour les permettre d'opérer. Ils utilisent cette fois-là l'ancien mode qui était utilisé, les machettes et autres. Mais il faut aussi démontrer aujourd'hui que les faiblesses, c'est parce que le gouvernement provincial a réduit les frais de recherche qui permettaient au ministère de l'Intérieur de mobiliser les services de renseignement et sécurité, autres militaires et la police pour essayer de démanteler. Mais en même temps aussi, on a remis le CCO, qui est le centre de coordination des opérations, entre la main de la police uniquement.
Ces phénomènes qui est devenu récurrent semblent échapper au contrôle de la police. Et pour tenter de rassurer les populations impuissantes et dans les désarrois, Jacques Moulakatu, gouverneur de province du Haut-Katanga, fait un état de lieu.
L'insécurité qui refait surface, cette fois-ci, sous forme des attaques à la machette. Ça, c'est une autre forme d'insécurité. Ce qui veut dire qu'il y a un pas. Mais les machettes qui sont utilisées nous renvoient à la présence des jeunes de quartier qui peuvent les soins d'appliquer cet exercice. Parce que tout ça, ce qu'il y a à la base, c'est aussi le chômage.
Les populations se sentent encore terrorisées. Alors que Philippe Leroy de Belge doit visiter la grande ville minière dans le sud-est de la RDC? Narval Nabila, Lubumbashi, pour VO Afrique.
Jacques Aristide avec vous au menu de Washington Forum. Ce jeudi, la montée des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux pays voisins s'accusent mutuellement de soutien à des groupes rebelles adverses qui multiplient des attaques meurtrières à la frontière congolo-rwandaise. La communauté internationale, dont Washington, appelle à une solution diplomatique. Pourquoi cette nouvelle crise entre Kigali et Kinshasa? Le dialogue est-il urgent pour parvenir à une entente? Attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Ici aux États-Unis, les législateurs de la Chambre des représentants dominés par les démocrates ont adopté hier soir un projet de loi sur le contrôle des armes à feu en réponse aux récentes fusillades à Uvalde et Buffalo qui ont fait au total 31 morts. Ces mesures ont peu de chances de passer au Sénat. Les précisions de Nathalie Barge.
Le projet de loi adopté par la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, interdit notamment la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans et celle des chargeurs de munitions d'une capacité de plus de 15 cartouches. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants.
On this vote, the yeas are 223, the nays are 204.
Sur ce vote, il y a 223 oui et 204 non. Le projet de loi est adopté sans objection. Une motion de reconsidération est déposée sur la table.
Ce projet de loi n'a quasiment aucune chance de passer au Sénat, où démocrates et républicains poursuivent d'âpres négociations axées sur l'amélioration des programmes de santé mentale, le renforcement de la sécurité scolaire et la vérification des antécédents. La proposition permet toutefois aux législateurs démocrates de définir leur position sur les politiques avant les élections de mi-mandat le 8 novembre. Jerry Nadler, représentant démocrate de New York.
Who will be able to tell their constituents that they stood with them?
Qui pourra dire à ses électeurs qu'il était avec eux et non avec le lobby des armes à feu? Les Américains regardent. Ils nous supplient de les protéger, eux et leurs proches, de la violence armée. Qui d'entre nous répondra à leur appel?
De leur côté, les Républicains continuent de montrer leur attachement au deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit de détenir et porter des armes. Jim Jordan, représentant républicain de l'Ohio.
Ce que fait ce projet de loi, c'est retirer les droits du deuxième amendement, les droits donnés par Dieu, protégés par notre Constitution, aux citoyens américains respectueux des lois. C'est ce que fait ce projet de loi. Et c'est pourquoi nous devrions nous y opposer.
Des survivants et des parents des victimes des deux dernières fusillades de masse ont témoigné devant le Congrès hier soir, livrant des récits poignants comme Mia Cerio, 11 ans, survivante de la tuerie dans l'école d'Uvalde, et la maman d'un jeune survivant de Buffalo. Malgré ces fusillades récurrentes, aucun gouvernement, démocrate comme républicain, n'est parvenu jusqu'ici à réduire de manière significative l'usage des armes à feu aux États-Unis.
En marge du sommet des Amériques à Los Angeles, des étudiants en journalisme ont demandé au secrétaire d'État américain Anthony Blinken pourquoi les États-Unis traitent avec des pays qui auraient tué des journalistes comme l'Arabie Saoudite, tout en condamnant d'autres comme Cuba, le Nicaragua et le Venezuela pour avoir menacé la liberté de la presse. C'est un reportage de Cindy Sen, le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Le secrétaire d'État américain rencontre un certain nombre de ses homologues à Los Angeles lors du sommet des Amériques. Mais les États-Unis n'ont pas invité Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Anthony Blinken dit avoir noté que 17 travailleurs des médias ont été tués cette année dans l'hémisphère occidental, dont 11 au Mexique.
No region in the world.
Aucune région du monde n'est plus dangereuse pour les journalistes. Des crimes comme ceux-ci persistent en grande partie parce que les personnes qui les ordonnent et les exécutent sont rarement tenues pour responsables. Cela envoie le message que ces attaques peuvent se poursuivre en toute impunité.
Lors du forum, des étudiants en journalisme ont demandé à Blinken pourquoi le proche allié de l'Amérique, Israël, n'a subi aucune répercussion après le meurtre de la journaliste palestinienne américaine Shireen Abu Akleh. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Je déplore la perte de Shireen. C'était une journaliste remarquable, une citoyenne américaine, comme vous le savez bien. Et là aussi, nous sommes déterminés à suivre les faits et à découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Ils n'ont pas les faits. Non, je suis désolé, sans votre respect, ils n'ont pas encore été établis.
Le président Joe Biden envisage de se rendre en Arabie Saoudite, bien qu'il ait déclaré qu'il ferait du prince héritier Mohamed Ben Salman un paria à cause du meurtre du chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi. Les experts disent qu'il s'agit là d'un autre cas à surveiller pour évaluer l'engagement du président en faveur de la liberté de la presse. Rachel Oswald est membre du Club de presse nationale, un institut de journalisme.
Mais le désir de faire baisser les prix de l'essence crée vraiment une tension intéressante entre ce que l'administration avait annoncé comme une politique étrangère fondée sur les droits de l'homme, d'une part, et une politique qui sert la classe moyenne, d'autre part. La classe moyenne américaine déteste vraiment payer à 4, 5, voire 6 dollars le gallon d'essence.
Les experts estiment que la flambée des prix de l'essence est probablement l'un des facteurs à l'origine du changement de Biden pour sa rencontre avec le prince héritier saoudien.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com. Et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lubumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.